Bonjour, bienvenue dans Contrechamp, dans cette troisième émission Contrechamp. Et nous sommes avec Grégory Roger du K56, toujours lui. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Et Alan Smithy. Bonjour Alan.
Bonjour Tom. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Je vais vous dire un mot avant de commencer l'émission. Je dédie cette émission aux amis de la paix dans le monde et de la bonne humeur, car aujourd'hui, on va parler de la filmographie d'un certain Quentin Tarantino. Rarement un réalisateur ne s'est imposé à ce point comme référence aussi vite que Quentin Tarantino. Normalement, c'est au bout de 2-3 films que la renommée arrive, mais lui, ça a été dès son premier. Il est né au Tennessee en 1963 à Knoxville, et il a grandi dans un bouillon de culture cinématographique vraiment différente, mais particulièrement avec le cinéma d'exploitation. Le cinéma d'exploitation qui est un genre totalement fauché, peu soucieux de la qualité de ses films, et qui se donne généralement les meilleurs nanars. Il a su imposer à ses films un style reconnaissable entre mille que je vais vous décrire de ce pas. Dans ses films, il y a beaucoup de dialogues, souvent futiles, comme cette absurde discussion sur les burgers dans Pulp Fiction.
But you know what the funniest thing about Europe is?
What?
It's the little differences. I mean, they got the same shit over there that they got here, but it's just there, it's a little different.
Example.
All right, well, you can walk into a movie theater in Amsterdam and buy a beer. And I don't mean just like a little paper cup, I'm talking about a glass of beer. And in Paris, you can buy a beer in McDonald's. And you know what they call a quarter pounder with cheese in Paris?
They don't call it a quarter pounder with cheese?
No, man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is.
And what do they call it?
They call it Royale with cheese.
Royale with cheese.
That's right.
What do they call a Big Mac?
Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac.
Le Big Mac. What do they call a Whopper?
I don't know, I didn't go on a Burger King.
Mais les discussions sont aussi souvent vecteurs de tensions avant explosion. Le meilleur exemple, c'est dans Django Unchained. Ceux qui l'ont vu voient sûrement de quelle scène je veux parler, où le spectateur sait que quelque chose de violent va arriver à la fin de la discussion, mais quoi ? À l'avantage de qui ? Tous ces films ont une structure de narration déconstruite, mais cohérente et compréhensible, ou sont au moins chapitrés pour signifier un changement d'espace ou de temps. La violence est d'ailleurs omniprésente dans sa filmographie, elle est ultra sanglante à la limite de l'artificiel parfois, et on retrouve régulièrement des impasses mexicaines. Vous savez ce que c'est une impasse mexicaine ?
Pas du tout.
Une impasse mexicaine, le principe c'est qu'il y a au moins 3 personnes ou plus qui se braquent depuis leurs armes dessus, ce qui fait que ça rajoute un degré de risque au duel. Et c'est souvent utilisé dans les films comme Reservoir Dogs ou Le Très Bon, Le Bon, Le Brut et Le Truand de Sergio Leone. On retrouve toujours une scène avec les pieds d'une des actrices en gros plan et la marque fictive de cigarette Red Apple. Tous ces films ont aussi un petit je ne sais quoi qui renvoie au cinéma d'exploitation qu'il a tant inspiré. A noter aussi que tous ces films ont au moins un mot de français, je ne sais pas pourquoi. Vous savez pourquoi, vous ? Il y a toujours un mot de français dans les films de Tarantino, toujours.
Je l'avais jamais remarqué.
Moi, j'ai remarqué dès ses premiers, en fait. On va passer à sa filmographie, mais avant, on va écouter Chic Habit du groupe April March, qui est une cover de la musique de France Gall, Laissez tomber les filles, et qui est présente à la fin du film Death Proof.
You're gonna see the reason why when they're spitting.
Nous venons d'écouter Chic Habits du groupe Apple Marsh qui est dans Death Proof. Tarantino a un CV bien chargé. Il est réalisateur, producteur, scénariste, acteur. Donc on va en priorité parler de ses réalisations, de ses productions les plus importantes, de ses scénarios. Mais on va un petit peu moins parler de son côté acteur, bien qu'on pourra le mentionner de temps en temps. Il commence son aventure en 1987. Souvenez-vous de cette époque où Tom Cruise est encore au début de sa carrière. Il a joué dans Top Gun peu de temps avant, où le DVD n'existe pas et la cassette VHS règne en maître. À l'époque, il travaillait encore à Video Archive, une boutique de location vidéo, et il écrit avec ses collègues et Roger Avary le film My Best Friend's Birthday. Il a malheureusement brûlé dans l'incendie du laboratoire qu'il développait, mais si vous voulez le voir, les 34 minutes survivantes sont sur YouTube, mais c'est en VO. Son premier vrai film, Reservoir Dogs, sort en 1992. Son premier vrai film est Reservoir Dogs. Il est sorti en 1992 et c'est un huis clos dans un hangar où une troupe de braqueurs cherche à savoir qui est le policier infiltré qui les a dénoncés à la police. C'est le premier film de Tarantino et c'est celui qui pose les bases de son style. Et c'est l'une des meilleures productions de Tarantino à mes yeux. Donc, un conseil, allez le voir. Même pas, c'est une obligation.
C'est effectivement un des films qu'il faut absolument avoir vu au moins une fois dans sa vie.
Tout à fait. En 1993, donc un an plus tard, Tony Scott réalise le scénario de Tarantino, True Romance. Celui-ci a beaucoup apprécié. Il retravaillera avec Scott sur USS Alabama en 1995. En 1994 sort Pulp Fiction. Trois histoires de gangsters dans un récit déconstruit qui virevolte entre elles sans se perdre, donnant un tout cohérent et vraiment drôle servi d'un casting et de dialogue fabuleux. Cette même année, donc en 1994, toujours au Festival de Cannes, il est concurrent au film Tueur né d'Oliver Stone, l'un des films les plus psychés que j'ai vu et dont le scénario était originellement écrit par Tarantino. Stone l'a modifié et donc Quentin prend sa distance, considérant que ce film n'a plus rien à voir avec l'idée de base. C'est une façon pour lui de dire qu'il a totalement désavoué. C'est un petit peu extrême, mais bon. Il joue dans un film de Robert Rodriguez, tiré de l'un de ses scénarios, qui s'appelle Une nuit en enfer, en 1996. C'est leur première grosse collaboration et le début d'une grande amitié pour les deux réalisateurs. En 1997, il réalise Jackie Brown, un hommage au film fauché de la Blaxploitation, un genre pour le public noir des années 70 que Tarantino a adoré étant gosse. Mais le film aura moins de succès que ses précédents malgré la formule tarantinesque qui marche, c'est vrai, moins bien sur celui-là. Et donc il fera une pause de quelques années jusqu'à un dîner avec Uma Thurman dans lequel celle-ci fait une suggestion qui donne envie à Tarantino de faire un film inspiré des westerns, des films de kung-fu. Et donc Kill Bill sort en 2003. L'histoire est celle de Béatrice Kiddo, ex-tueuse à gages qui se fait tirer dessus par son amant et chef, Bill, et qui se réveille 4 ans plus tard du coma et ne rêve plus que d'une chose, se venger en tuant Bill. Ça fait moins classe en français quand même.
Beaucoup moins.
Beaucoup moins. En 2004, la suite sort et boucle l'histoire avec une scène de fin tout à fait extraordinaire dans le sens littéral du terme. Parce que ça sort d'ordinaire. Mais elle est bien. Il réalise en 2005 quelques scènes de Sin City réalisées par son grand pote de toujours, Robert Rodriguez. Dans lequel d'ailleurs il n'est pas crédité, à croire qu'il faisait ça juste pour le plaisir. Mais la plus grosse collaboration des deux Gus, c'est sûrement la soirée Grindhouse. Vous savez ce que c'est la soirée Grindhouse? Je suis sûr que vous êtes dubitatif. Êtes-vous dubitatif?
Totalement dubitatif.
Complètement.
Ben voilà, c'est bien. C'est une soirée produite par Tarantino qui consiste à la projection de deux film pastiche des films d'horreur, Le Boulevard de la Mort, qui est une parodie Death à Chair Movies par Tarantino, et Planète Terreur, une parodie des films de zombies par Robert Rodriguez, et ils étaient entrecoupés de fausses bandes annonces réalisées par Edgar Wright et Eli Roth, ainsi que Rob Zombie et Robert Rodriguez lui-même. C'est drôle de voir que ces bandes annonces, certaines, ont été faites en film par la suite et produites par Tarantino, dont justement Machete de Robert Rodriguez. En 2008, il passe faire un coucou chez George Romero en faisant une voix off dans Diary of the Dead, le journal d'un mort vivant. On va maintenant écouter Huge Overkill avec sa musique Girl, You'll Be a Woman Soon. Je vous laisse écouter cette super musique. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my Vous venez d'écouter Girls, You'll Be a Woman Soon par Huge Overkill qui était dans le film Pulp Fiction.
Merci Tom pour ce morceau.
De rien, il est très très bien. Et donc nous étions arrêtés à l'année 2008 quand il avait joué dans Diary of the Dead de George Romero. Et on va continuer sur l'année 2009 et début 2010. En parlant 2009, c'est cette année-là qu'il a fait l'un de ses plus gros succès international avec Inglourious Basterds. Attention au titre, parce qu'il y a un autre film qui s'appelle Inglourious Basterds. Et là, c'est Inglourious Basterds. Il a fait des fautes exprès. C'est un film se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale. Et il est à ce jour mon préféré parce qu'il est d'une richesse linguistique et visuelle tout à fait exceptionnelle. Et je trouve que le personnage de Hans Landa, l'officier SS polyglotte qui est surnommé le chasseur de juifs et qui est joué par Christoph Waltz, est génial. Tarantino a toujours été très admiratif de Sergio Leone et Sergio Corbucci et réalise en 2013 un film hommage nommé Django Unchained, un western se déroulant durant la période de l'esclavage avec une esthétique très marquée et un Leonardo DiCaprio tout à fait exceptionnel. En 2016, toujours dans la veine du western, il réalise le film Les 8 salopards. C'est un huis clos dans une maison prisonnière de la neige, avec 8 personnes qui sont en proie à un complot, mais de qui ? En tout cas, ça ne peut être que ceux qui sont dans cette maison. Donc c'est un film avec beaucoup de tension, pas un de ses meilleurs, mais vraiment très bon. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié.
C'est pas le meilleur.
C'est surtout que c'est un film qui a normalement jamais dû voir le jour.
Je sais pas.
Puisque c'est un film qui a été volé à Quentin Tarantino. Et Huit Salopards, c'est un film qui, en gros, que Tarantino a pas voulu faire, pour la bonne et simple raison que il avait fait le scénar, on lui a piqué le scénar, on lui a volé son ordinateur portable et on a balancé le scénario sur Internet.
Oui.
Et de colère, il a dit je ferai pas le film, c'est pas la peine, puisque
il
c'est
fait
vrai
un, il a fait un nouveau scénario.
C'était compliqué. Et donc il a repris, il a attendu 2 ans, il a repris le scénario, il a changé finalement par rapport au scénario original. Qui devait être, lui, un scénario beaucoup plus western à l'extérieur, vengeance et compagnie. Mais en fin de compte, Les Huit Salopards, pendant un temps, tout le monde a dit bah, on le verra jamais. Parce que finalement, si on va sur Internet, on peut trouver facilement le scénario original. Enfin, le premier qui a été volé et qui a été balancé sur un truc du genre Wikileaks, ou des choses comme ça, quoi.
Donc c'était son dernier film en 2019, donc cette année-là, hein, donc dans très peu de temps, et il va faire un film nommé Il était une fois à Hollywood. Hommage à Sergio Leone qui était une fois dans l'Ouest. Ce sera un film qui parlera de Charles Manson, du meurtre Sharon Tate, donc la femme de Roman Polanski à l'époque, et d'un acteur raté qui tente de percer dans cette machinerie hollywoodienne. Ça se trouve ce sera bien, mauvais, cool, bref. On verra. Moi j'irai le voir, j'ai très hâte. As-tu hâte d'aller le voir ?
Je serais quand même curieux, ça reste du Tarantino.
En effet.
J'ai très peu de doutes dans le fait que ça soit mauvais. Tarantino n'a jamais fait aucun mauvais film, mais là où moi j'ai un peu plus de réserve par rapport à ce qu'on peut dire habituellement sur Tarantino, c'est que je ne pense pas que tous ses films soient des films géniaux. Il a effectivement une touche et un talent en termes de réalisation qui fait que c'est un réalisateur plus que notoire, c'est quand même l'un de mes réalisateurs préférés. Mais de crier au génie dès qu'il touche quelque chose, je trouve ça un petit peu fort. Et effectivement, il a eu des moments de génie sur Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, sur des films complets comme ceux-là, où vraiment il y a sa patte, il y a son génie tarantinesque, tel que tu le disais tout à l'heure, dans la mise en scène et les choix de cadre. Et après, il fait toute une série de bons films, de très bons films, mais de là à crier au génie, je trouve ça un petit peu fort.
Non, c'est vrai que par exemple, Jackie Brown, Le Boulevard de la Mort, sont pas des films que je trouve exceptionnels. La première partie du Boulevard de la Mort est géniale, je trouve, parce qu'il y a une esthétique que j'apprécie beaucoup. Et après, ça fait redite avec la deuxième qui est en des très, très ressemblances.
On sent effectivement sur Le Boulevard de la Mort, il a été un petit peu. Il a pas été au bout du concept. Hein.
En effet. Après, je trouve que ses derniers films, après Les Huit Salopards aussi, je trouve pas exceptionnels. Un petit peu parodique de ses propres films.
Ouais.
Mais il est pas mal.
Je ne l'ai pas vu, à voir.
Il est pas mal. C'est sur ces sages paroles de Alan Smithy que se terminera la chronique avec une morale tout à fait correcte. Et toute personne créant des choses n'est pas extraordinaire. Que ce soit réalisateur, dessinateur. Il n'y a personne qui fait que des bons trucs, et ça c'est bon à savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui crient au génie sur tout et rien. Donc voilà pour le cinéma de Tarantino, un cinéma que j'apprécie beaucoup, qui peut être contesté, trop violent, trop vulgaire, mais si vous n'aimez pas les films, écoutez au moins les bandes-sons qui sont vraiment génialissimes. Ça par contre on peut pas le nier.
Non.
Donc voilà. Et en tout cas, moi j'attends avec impatience son projet de film Star Trek. Pour une fois qu'il y aura du sang dans ce truc, ça a l'air génial. Allez, je vous laisse avec His Name is King de Louis Bacalov, qui est dans Django Unchained. His name is King. He had a horse along the countryside. I saw him ride. He had a gun. I knew him well. Oh, I heard him singing. I knew he loved someone. His name was Cain.
His name was Cain.
he never miss. Ride on, King, ride, you get your man.
Monsieur, excusez-moi, est-ce que je pourrais savoir comment ça marche ?
Mais évidemment, laissez-moi vous expliquer.
Comment ça marche ?
Grégory, peux-tu nous dire comment ça marche aujourd'hui la diffusion d'un film en numérique ?
La diffusion d'un film en numérique, en fin de compte, elle est très très simple. Au contraire de ce qu'on peut imaginer, le film est stocké sur un gigantesque disque dur, mais il est quand même projeté. On pourrait s'imaginer qu'il est projeté directement, mais pas du tout, il est projeté sur ce qu'on appelle un prisme, en fin de compte. C'est-à-dire que vous avez une lampe qui projette, non pas directement sur l'écran, mais sur un prisme qui se trouve à l'intérieur du projecteur. Ce prisme est composé de... ça dépend, en fin de compte, de milliers, voire de dizaines de milliers de petites facettes. Et chacune de ces facettes, en fin de compte, a été paramétrée pour pouvoir renvoyer l'image. Et c'est pour ça que l'image de cinéma est plus grande, en fin de compte. Et donc, c'est pour ça que... L'élément le plus important dans un projecteur, celui qu'on va protéger, c'est la lampe. Parce que la lampe, elle, c'est elle qui va générer la première lumière, mais c'est aussi ce qu'on appelle le prisme, en fin de compte. C'est un objet qui n'est pas très grand, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que pour projeter nous, par exemple, sur un écran de 12 mètres, eh bien, on a un prisme qui doit faire à peu près une quinzaine de centimètres. Voilà. Le prisme, en fin de compte, est paramétré pour... renvoyer l'image qui est projetée, et elle la renvoie sur un écran, lui, qui est une toile un peu particulière, hein, qui est un peu tendue.
Voilà, mais avant, il n'y avait pas de numérique. Aujourd'hui, c'est plutôt simple, mais avant, c'était manuel. Alors, le cinéma utilisait des bobines. Qu'est-ce que c'est, des bobines ? Ce sont des bandes souples couvertes de plusieurs produits chimiques qui réagissent à la lumière du projecteur dans le projecteur. Alors, il existe plusieurs formats de bobines, le 8 mm, le 9,5 mm, le 35 mm, le 16 mm, le 65 mm et enfin le 70 mm. Et plus les formats sont larges, plus la qualité est bonne et la pellicule chère. Globalement, toutes les pellicules ont une bonne qualité d'image et c'est que depuis l'arrivée de la 4K qu'on arrive à avoir des qualités d'image comparables à la définition des pellicules 35 à 70 mm. Bref, quand un projectionniste recevait un film, il pouvait arriver en 6, 8 ou plus de bobines de 20 minutes. Il devait les recoller dans le bon ordre et rajouter publicité, tout ça. Les perforations sur les côtés des pellicules servent à les accrocher au mécanisme dans le projecteur, ça c'est plutôt simple à savoir, pour pouvoir qu'il défile. Au tout début, on utilisait des bobines de nitrate de cellulose. Le problème, c'est que c'est hyper inflammable. Et donc on avait deux projecteurs pour que l'un prenne le relais de l'autre à la fin d'une bobine. Ainsi on évitait que celle-ci ne brûle à cause de la lampe dans le projecteur. Par la suite on a utilisé du triacétate de cellulose. C'était moins inflammable, moins transparent, plus solide et ça vieillissait mieux. Enfin c'est ce qu'on pensait, parce qu'au final, avec l'effet vinaigre, ça vieillissait beaucoup moins bien. Aujourd'hui on utilise des bobines en Estar, c'est bien plus stable. Un autre problème se pose maintenant. Comment savoir quand une bobine est terminée ? Alors c'est simple ça, il suffit de marquer 4 images à 8 secondes de la fin, et aujourd'hui avec le marquage laser c'est plutôt simple, c'est-à-dire que le marquage est directement dans la copie, mais à l'époque, chaque projectionniste le marquait à sa façon. Ça pouvait être un point au crayon gras, une petite rature, donc à la fin le marquage devenait totalement illisible. À la fin de la projection, les projectionnistes devaient redécouper les bobines, pour les remettre dans l'état initial dans lequel ils les ont trouvés, ça veut dire en galette de 20 minutes. On en devant les publicités et tout ça, donc c'est déjà un gros travail de minutie, pour qu'elles repartent vers d'autres cinémas qui feront la même opération. Alors pourquoi on n'utilise plus de bobines, puisque de toute façon l'image est mieux ? Bah, tout bêtement, parce que, comme j'ai dit plus haut, c'est un gros travail de manutention, en plus c'est cher, c'est 10 fois plus cher de faire produire une copie de bobine qu'une copie numérique, Il y avait un problème de luminosité. Comme le projecteur illuminait que le milieu de l'écran, les côtés étaient toujours un peu plus sombres. Les copies bobines, si elles étaient en mauvaise qualité ou si elles étaient abîmées, soit il fallait en recommander une autre, donc payer, soit il fallait les diffuser comme ça, et c'était pas l'idéal. Donc voilà qui conclut la chronique « Comment ça marche ?»
Comment ça marche ?
Et donc, je vous passe tout de suite notre amitié Phil, Alan Smithy. Donc voilà qui conclut la chronique « Comment ça marche ?»
Comment ça marche ?
Et donc, je vous passe tout de suite notre amitié Phil, Alan Smithy.
La chronique du cinéphile.
Merci Tom, faudra juste que l'on reparle de ce générique là, ça me pose un petit peu problème, mes oreilles saignent. Bonjour à tous et à toutes, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un film et j'ai choisi de vous parler de Small Apartments. Film de 2016 de Jonas Åkerlund, réalisateur qui n'a pas fait grand-chose de notoire, à part réaliser un live de Madonna et un autre de Rammstein. Donc c'est un film avec Matt Lucas, qui à part quelques séries n'a pas une filmographie de ouf. On le signale tout de même dans une apparition dans Shaun of the Dead. À côté de lui, il y a tout de même Monsieur Billy Crystal, que vous avez sûrement vu dans Quand Harry rencontre Sally. Il y a également Juno Temple, que vous avez eu l'occasion de voir dans Batman The Dark Knight Rises, le film de Nolan, ou également dans L'An 01. Alors L'An 01, ce n'est pas le film de GB de 72, c'est plutôt le navet de et avec Jack Black.